Lisons le passage qui nous est proposé. Le 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes. » Découpant droit. Le terme grec dit « couper droitement la parole de la vérité ». On a étudié dans les entretiens précédents la valeur de cette parole, l'autorité de cette parole, ce qui signifie le fait que Dieu nous parle. Mais il faut bien l'interpréter. Il faut tout le secours du Saint-Esprit, comme on l'a vu, pour comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut dire et ce que Dieu veut me dire. Il faut découper droit. Alors, je vous signale quelques points pour découper droit la parole de la vérité. Par exemple, on a déjà dit quelque chose à cet égard. Il ne faut pas sortir un passage de son texte, de son contexte, et surtout pas y fonder une doctrine. Il faut avoir une idée vaste du contexte et de tout le sujet. Il ne faut pas mettre ensemble deux ou trois passages pris, un ici, un là, et y fonder une doctrine sans avoir toute la pensée de Dieu à cet égard. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un frère qui m'avait dit que il y avait un croyant, je ne sais pas si c'est réel ou imaginaire, qui avait lu en Matthieu 27, le verset 5, Judas, et s'en étant allé, il se pendit. Et puis, en effeuillant sa Bible, il est arrivé en Luc 10, 37, qui dit, Jésus lui dit, va, et tu fais de même. Il ne fallait pas mettre ensemble ces deux passages pour me faire comprendre et pour nous faire comprendre l'importance qu'il y a d'avoir une idée claire de la Bible, découpant droit la parole de la vérité. Il faut comprendre quand le langage est un langage symbolique. Il faut localiser dans un temps exact un certain événement prophétique. Par exemple, le Seigneur va venir pour l'Église, mais il y a sa venue en gloire. C'est tout autre chose, c'est dans un temps différent. Il ne faut pas mêler les deux choses et les confondre. Et surtout, il ne faut pas mêler la loi et la grâce. Il ne faut pas appliquer à l'Église ce qui concerne Israël. Même le langage est différent. Quand nous lisons dans le psaume, « Bienheureux ceux qui prendront tes petits-enfants, les écraseront sur le rocher. » C'est une phrase qui nous bouleverse. Mais pourtant, la haine vers l'ennemi pour Israël avait un motif d'exister. C'était la loi. Pour nous, ce n'est pas ainsi. Qui oserait dire une phrase comme celle-là? Aimez vos ennemis. Nous avons à leur porter la parole de vie, le message du pardon de Dieu, le message de la grâce. Alors malheur à nous si nous mêlons les deux choses. Dans notre feuille, il y a deux passages. Colossiens 2, le verset 23, et Colossiens 3, le verset 1-4. Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? On peut s'arrêter là. Et au chapitre 3, le verset 1. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le légalisme, c'est un très grave danger. Nous pourrions dire, mais cela ne nous touche pas. C'est l'Église catholique qui enseigne qu'on est sauvé par les œuvres, ou bien par les œuvres, par la foi. Nous prêchons qu'on est sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, on peut avoir un esprit légaliste. Vous savez, quand la puissance de l'esprit diminue dans notre vie, dans nos milieux, alors il faut se faire des règles pour maintenir l'ordre. Ce n'est pas l'ordre selon Dieu, mais quand même c'est l'ordre. Et alors on commence à dire, mais on a toujours fait comme ça, il ne faut pas créer le précédent, etc. On met des règles. Une à la fois, on ne se rend pas compte, on met une quantité de règles. Et l'esprit n'est plus libre. Cette liberté de l'esprit dont nous parlons comme quelque chose qu'on possède, à la fin, quelquefois, n'est plus là. On l'a remplacé par une sorte de principe auquel il faut se refaire, la liberté de l'esprit. Se mettre chaque fois, devant chaque problème, devant le Seigneur, et lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que nous fassions en ce moment, dans cette situation? Quelle décision il faut prendre? Illumine-toi par ta parole et par ton esprit. Le légaliste, c'est un croyant qui n'est pas joyeux, c'est un croyant qui a la conscience tranquille quand il a fait une certaine chose, quand il n'a pas fait d'autre chose, mais il ne sera jamais un croyant heureux, il ne pourra jamais transmettre un message de la part de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne sera pas capable, parce que c'est un message de délivrance, de liberté, et lui-même il n'est pas libre. Il n'est pas délivré dans sa vie, tout étant un croyant. Alors que le Seigneur nous donne de bien comprendre la liberté qu'on a en Christ et cette puissance d'esprit. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais il y a un autre danger, je me permets de dire ces choses en espérant qu'il nous aide. Il y a un autre danger, c'est celui de construire un christianisme judaïsant. Et je ne sais pas si j'arriverai à expliquer cette idée. Israël était un peuple fermé. À lui les promesses, les oracles, comme dit la parole, les alliances, l'adoption, la gloire, le service. Israël qui prétendait d'être celui qui dirige les aveugles, la lumière, dépositaire de la vérité, mais pas porteur de la vérité. Israël a la vérité. Les étrangers qui restent dehors, bon, s'il y a quelqu'un qui veut entrer, il doit se soumettre, mais c'est pas facile. Les ennemis, c'est la mort pour eux. Je suis dépositaire de la vérité. Ou s'il y a quelqu'un qui veut entrer, ben qu'il entre, mais qu'il fasse attention à ce qu'il fait. C'est un grave danger. À l'intérieur, il y avait la loi inflexible, il y avait la justice, il y avait le jugement, le châtiment pour ceux qui n'obéissaient pas à la loi. Dehors les ennemis, le contact avec le païen souillé même. Mais qu'il ne soit pas ainsi parmi nous. Nous sommes porteurs de la vérité. Nous allons vers ceux du dehors, leur parler de l'amour de Dieu. Et ceux qui entrent, ils doivent se sentir tout de suite chez eux. C'est leur place. Il faut que le langage qu'ils entendent soit pour eux. Il faut qu'ils se trouvent tout de suite à l'aise parmi nous, parmi les croyants. Autrement, signifie que notre christianisme C'est un christianisme fermé, comme l'était le peuple d'Israël. Et faisons-nous attention que, en étudiant Israël, en parlant continuellement d'Israël, on ne perd pas la signification du véritable christianisme, cette grâce, cette ouverture dans l'amour de Dieu, tout ce que le christianisme comporte, que nous savons bien. Alors, les deux dangers de mélanger la loi et la grâce dans un sens, de se construire un christianisme qui, à la fin, a perdu toute sa puissance, découpant droit la parole de la vérité. Au point A, nous avons la révélation progressive des pensées de Dieu. Révélation progressive. Dieu n'a pas révélé toutes choses tout à la fois. Il y a une progression dans l'histoire de l'humanité de la révélation de Dieu. Mais il y a aussi une progression dans l'histoire de l'individu. Je ne dirais pas une révélation progressive dans l'individu, mais plutôt une progression dans la connaissance de la révélation de Dieu en ce moment-là. Alors, dans le temps et dans la vie de chacun, il y a cette progression. Nous pouvons lire Deutéronome 29, le verset 29. On l'a déjà lu hier soir, je crois. Deutéronome 29. Notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours. Alors il y a des choses cachées et des choses révélées. Alors quelquefois nous disons, mais les choses cachées, Dieu nous les a révélées. Pas toutes. Il y a des choses cachées qui sont pour l'Éternel et qui resteront cachées. Et qui c'est un domaine à lui. Il y a des choses que Dieu se plaît à nous révéler. Et alors malheur à nous, si nous voulons aller explorer, aller connaître les choses cachées qui appartiennent à l'Éternel. C'est une tendance de l'homme, l'occultisme. C'est un chapitre qui est occulte. Dieu ne nous a pas beaucoup révélé à ce sujet. Malheur à l'homme s'il veut pénétrer dans les choses cachées qui appartiennent à l'Éternel. Tout le problème des anges déchus et bien d'autres problèmes. Il y a des mystères qui restent des mystères. Il y a des choses particulières. Par exemple, ce qui s'est passé entre le Seigneur et son Père, lors de sa vie ici-bas, lors de ses souffrances, sur la croix, dans les heures de ténèbres, dans sa mort. Qui c'est qui peut comprendre? Ce sont des choses sacrées et cachées qui appartiennent à l'Éternel. Et il ne faut pas mettre notre fantaisie pour essayer de dire quelque chose là où Dieu a voulu se taire. Mais alors il y a des choses qui sont révélées. Révélées dans le temps. Adam a eu des révélations. Noé a eu d'autres révélations. Et avant lui, Enoch a eu des révélations. Et Abraham a eu d'autres révélations. Et le peuple d'Israël et Moïse. Jusqu'à nous. Et aujourd'hui, la révélation de Dieu est complète. Complète quant au mystère que Dieu nous a voulu révéler. Il y a des mystères à l'égard desquels le silence a été gardé dès les temps éternels. Vous imaginez, dès les temps éternels, le silence avait été gardé. Ce mystère a été révélé. Romains, chapitre 16, le verset 25. Des mystères à l'égard desquels, le mystère, c'est singulier, à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels. Puis nous avons les choses cachées de la fondation du monde. Selon Matthieu 13, 35, c'est le psaume 78. Dès la fondation du monde. Troisièmement, il y avait des mystères cachés dès les siècles et dès les générations. Cachés dès les temps éternels, dès la fondation du monde, dès les siècles et dès les générations. Eh bien, dans cette révélation progressive, Dieu nous a révélé tous ces mystères. Alors, il y a des choses cachées. À Matthieu 13, 35, le Seigneur vient et il ouvre les choses cachées. Mais, comme on a vu hier, les disciples n'étaient pas encore capables de tout comprendre. Il fallait le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il donne des révélations. C'est l'Esprit de la vérité qui prend les choses de Christ et les communique. Et nous savons ce qui est dit de cet Esprit, qui rappelle les choses que Jésus a dites, les évangiles, qui conduit dans toute la vérité, les épîtres, qui annonce les choses à venir, l'Apocalypse. Voilà alors Dieu qui révèle des mystères, mais il y a encore des choses cachées. Le Seigneur qui vient ouvre les choses cachées, mais il y a encore des mystères. Le Saint-Esprit qui vient et qui donne une pleine révélation. Des choses que Dieu veut révéler, mais il y a des choses qui restent cachées. Il y a la Trinité là-dedans. Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit. Et on a dit hier que dans l'œuvre de la création, il y avait la Trinité. Et nous pouvons ajouter même dans cette œuvre qui est la révélation de la pensée de Dieu. Il y a toute la personne de Dieu, tout son être. Exemple. Alors notre feuille nous dit, l'exemple nous donne l'exemple de l'agneau, par exemple. L'agneau, Abel. Abel offre à Dieu des agneaux. Parce que Dieu soit propice, parce que sa face se lève vers lui, il sait que pour s'approcher de Dieu, il faut cette victime. Eh bien, c'est une révélation. Mais quand à la Pâque, les Israélites devaient tuer l'agneau et mettre le sang sur les portes, il avait eu une connaissance plus grande. Le sang de l'agneau évitait le jugement de Dieu, permettrait à l'ange destructeur de passer par-dessus. Alors c'était l'agneau qui délivrait du jugement de Dieu. Il y avait bien plus. Et puis, les prophètes, le prophète Ésaïe. On ne va pas lire les passages. Cet agneau qui n'ouvre pas la bouche et qui prend sur lui nos iniquités, qui porte nos langueurs, qui se charge de nos maladies, qui meurt pour nos péchés. Voilà l'agneau de Dieu qui souffre. Mais c'est encore voilé. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Cet agneau qui vient souffrir pour nous, se charger de nos péchés. Mais c'est déjà une plus grande révélation jusqu'à la venue de Christ. Alors voilà Jean-Baptiste qui voit Jésus qui vient et qui dit « Voilà ». C'est comme dire « Voilà, maintenant nous le connaissons. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était bien celui qui était préfiguré dans l'agneau d'Abel, dans les agneaux qui étaient offerts dans les sacrifices sous le régime de la loi. C'était l'agneau dont parlait Ésaïe, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas tout. Quand l'Esprit viendra, nous connaîtrons bien plus de cet agneau. Par exemple, nous arrivons à connaître qu'il était préconnu dès avant de la fondation du monde. 1 Pierre 1, 19. Et nous savons que un jour, il prendra le livre et il sera le seul digne d'en ouvrir les sceaux, le livre des jugements de Dieu. Apocalypse 5. Nous savons qu'il y aura les noces de l'agneau. Son épouse est préparée pour les noces. Et nous savons que dans la cité, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aurait pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière parce que l'agneau est sa lampe. Il n'y aurait pas de temple parce que le Tout-Puissant et l'agneau sont le temple. Vous voyez quelle progression dans la révélation. Nous connaissons cet agneau. Notre substitut, celui qui est mort pour nous, qui pour nous a donné son sang. Nous avons connu ses souffrances. Nous connaissons sa gloire future, mais en partie, parce que la perfection n'est pas encore venue. Alors je passerai tout de suite à la révélation progressive subjectivement. Et on peut laisser les deux sujets pour l'entretien ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Action progressive ou bien connaissance progressive de la révélation de Dieu. Nous tous, nous avons des enfants et nous sommes bien en souci pour le développement de nos enfants. Il faut qu'ils grandissent en taille, en connaissance, en intelligence. Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, nés d'eau et d'esprit. Eh bien, Dieu suit notre nouvelle vie et Dieu veut qu'il y ait une croissance dans cette vie. C'est normal. S'il n'y a pas de la croissance, c'est qu'il y a une anomalie, il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le normal, c'est qu'on grandisse. Alors, la parole de Dieu nous parle de petits-enfants et nous parle d'hommes faits ou de croyants parfaits. La signification peut être la même. Enfants et hommes faits. Alors, je vous signale deux reproches que la parole de Dieu nous fait d'être enfants quand on aurait dû être déjà des hommes faits. On peut le lire. 1 Corinthiens 3, le verset 1 et 2. Mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnel. Être charnel, pas spirituel. Il y avait de l'orgueil, il y avait des luttes entre eux, il y avait de la présomption, il y avait de la jalousie, de l'envie. Le moi n'était pas encore mort dans leur vie. Ils étaient charnels. Ils auraient dû être déjà des hommes faits. Et alors l'apôtre Paul qui aurait voulu leur donner de la viande, de l'aliment solide, il est obligé par leur charnalité à leur donner encore du lait parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter la viande. C'est une reproche que l'apôtre Paul fait. Et dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 5, lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà deux reproches. Eh bien, prions le Seigneur que ces reproches ne s'adressent pas à nous. Ne soyons pas charnels. Et que le Seigneur nous donne, par le fait de l'habitude, d'avoir les sens exercés à discerner le bien et le mal. Autrement, cette révélation progressive dans notre vie sera entravée, cette connaissance progressive de la révélation de Dieu n'aura pas lieu. Il y a deux exhortations à ne pas être des enfants. On ne lirait pas le verset. 1 Corinthiens 14, 20. Ne soyez pas des enfants dans vos entendements. Et l'autre passage, Éphésiens 4, 14, « Afin que vous ne soyez plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. » Ce ne sont pas des reproches, mais des conseils. Ne soyez pas des enfants dans vos entendements. Soyez intelligents comme un homme parfait. Et puis, ne vous laissez pas ballotter par tout vent de doctrine. Être fondés dans la foi. Pas comme les enfants qui n'ont pas une idée à eux, qui n'ont pas des idées précises, qui suivent ceux qui crient plus fort. Non, nous devons être fondés fermes dans la connaissance et dans la foi. Mais il y a aussi deux exhortations à être des enfants. On la trouve en 1 Corinthiens 14, 20. On peut le lire parce que c'est utile dans notre vie pratique. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez des petits enfants. Ah, combien souvent nous sommes pour la malice, rusés, intelligents, tandis que dans d'autres choses, on devrait être intelligent et on est des petits enfants. Et je le dis pour moi-même. Alors soyez des petits enfants pour la malice. Et l'autre passage, 1 Pierre 2, le verset 2. Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel ou spirituel, afin que vous croissiez par lui à salut. Avoir ce sentiment, avec cet esprit d'un petit enfant, cette innocence, si on peut dire, dépouillée de toute malice, fraude, envie, etc., comme des enfants qui désirent le lait, qui aiment le lait, qui le savourent. Eh bien, savourez comme des petits enfants le pur lait intellectuel. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas être enfant dans la connaissance, mais c'est avoir, à l'égard de la parole de Dieu, de cet aliment précieux et complet, le même désir, le même goût qu'il y a un nouveau-né vers le lait de sa maman. Mais il y a aussi, pour compléter le sujet, à l'égard d'enfants, de petits enfants et d'hommes faits, deux cas spéciaux où la situation de petit enfant est la situation et notre situation actuelle. L'apôtre Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 9. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, jusqu'à ce que nous sommes sur la terre. Tout est en partie, tout est imparfait, tout est pas complet. Mais quand la perfection sera venue, alors tout ce qui est en partie aura sa fin et notre connaissance sera complète. Alors nous sommes enfants dans un sens jusqu'à ce que nous sommes sur la terre, parce qu'il y a cette limitation à nos connaissances. Et l'autre cas spécial, c'est en Galates 4, 4. Nous pouvons le lire parce que nous aidera à comprendre la loi et la grâce. Le verset premier. Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils. Alors, enfin, dans le sens de l'Israélite sous la loi, il est comme un enfant. Mais quand le Seigneur vient, tout à coup il grandit et il entre en possession des privilèges qu'il a en tant que fils. Eh bien, on a parlé hier d'un cas où l'apôtre parle d'homme fait. C'est Philippiens 3, nous qui sommes parfaits ou hommes faits, nous avons ce sentiment. Mais voilà l'amour de l'apôtre. S'il y a quelqu'un qui a une autre pensée, eh bien Dieu le révélera. Et puis un autre cas, dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 2, nous parlons sagesse parmi les hommes parfaits ou les hommes faits. Que le Seigneur nous donne de ne pas être toujours des enfants. Il y a des nouveaux convertis, évidemment ils sont des enfants, mais qu'il y ait cette croissance. Croître dans la foi, il nous est dit. Croître dans la connaissance. Croître dans la grâce. Dans la foi, 2 Corinthiens 10, le verset 15. Dans la connaissance, Colossiens 1, 10, dans la grâce, 2 Pierre 3, 18. Mais j'aimerais conclure cette section en lisant un passage dans le prophète Jérémie 33, le verset 3. Désirons tous grandir. Nous désirons tous être hommes faits. Que le Seigneur nous aide, que nous ne soyons pas des hommes charnels. Ce sont les sujets de nos prières, constamment. Mais lisons ce passage. Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ce verset pour nous? Crions au Seigneur, crions à lui, et le Seigneur nous répondra, et nous révélera des choses grandes et cachées que aujourd'hui, actuellement, nous ne connaissons pas. Mais dans notre vie, peut-être qu'un frère, un autre frère les connaît déjà. Mais si je crie au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître mieux. Seigneur, donne-moi une plus grande révélation de ta parole. Le Seigneur dit, je répondrai. Et je te révélerai des choses grandes, te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Alors qu'il soit le sentiment de chacun de nous, face à cette grande révélation de la pensée de Dieu, et sachant qu'elle est grande, le privilège d'avoir ces déclarations de la part de Dieu, de connaître sa pensée. Les dispensations. Que c'est qu'une dispensation? Qu'est-ce que signifie la parole, le mot? Dispensation, dans le sens du terme, signifie, c'est lié à l'idée de dispenser, de régir, d'un régime. Mais dans la signification théologique, disons, ce terme inclut même l'idée d'âge, une idée dans le temps. On a dit que Dieu, à chaque époque, a donné une certaine révélation. Eh bien, l'époque dans laquelle Dieu donne une certaine révélation, qui fait que l'homme ait une nouvelle connaissance de la pensée de Dieu et qu'il ait une nouvelle responsabilité sur la base de cette connaissance, eh bien, celle-là, c'est une dispensation. Avant la loi, sous la loi, sous la grâce, Dieu a révélé des choses toujours nouvelles, toujours plus grandes, parce que la révélation successive n'annule pas la précédente. C'est une progression. Et l'homme, chaque fois qu'il a une révélation de Dieu, a une nouvelle responsabilité vis-à-vis de Dieu. Il a une nouvelle connaissance. Cette connaissance et cette révélation, c'est le fondament de sa relation avec Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. De Dieu avec l'homme, qui est responsable selon cette relation. Alors, il y a différentes économies. On peut voir l'innocence avant la chute, la conscience depuis la chute jusqu'à Noé, le gouvernement de l'homme depuis Noé jusqu'à Abraham, et puis les promesses, ou l'appel, c'est Abraham. Et puis, il y a la loi, sous Moïse. Puis il y a la grâce, ou bien la dispensation de l'Église. Il y a le royaume, et à la fin, les temps éternels. Mais en retenant trois essentiels. D'Adam à Moïse, la dispensation non pas de l'innocence, parce que l'homme pécheur n'est plus innocent, mais de la conscience. Deuxièmement, la loi. Troisièmement, la grâce. par Jésus-Christ. Avant la loi, est-ce qu'il y avait le péché ou pas? Il y avait le péché. Qu'est-ce que c'est qu'il n'y avait pas? C'était la transgression. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. On peut dire celui-là, c'est un pécheur. Il a commis un péché, mais on ne peut pas dire il a transgressé un règlement, une règle, un point de la loi, parce qu'il n'y a pas de loi. Le péché amène à la mort, mais il n'y a pas de transgression. Et alors le péché n'est pas mis en compte de transgression. Lisons Romains 4, le verset 15. « Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Mais avant la loi, nous savons bien, les hommes pieux, ceux qui avaient une relation vivante avec Dieu, ils connaissaient parfaitement la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Nous sommes étonnés, en lisant l'histoire des patriarches, de la lumière qu'ils avaient de la pensée de Dieu. Abraham, par exemple, Enoch, quelle révélation il a reçue. L'homme qui avait une relation vivante avec Dieu, il connaissait sa pensée. Mais il n'y avait pas de transgression et pas de sacrifice pour le péché. Parce que le sacrifice pour le péché a été introduit comme acte de grâce de Dieu pour les transgressions involontaires. Le sujet est vaste, mais un jour Dieu donne la loi. La loi est sainte, juste et bonne. La loi était une expression de la volonté de Dieu, était l'expression de ce que Dieu aurait voulu que soit la vie de l'homme. La loi a été donnée pas dans une atmosphère de joie et de paix. C'était le tonnerre, c'était les ténèbres, c'était le feu brûlant, c'était la tempête. Dieu qui parle à l'homme pécheur, Dieu qui donne sa volonté, qui donne des règles de vie à quelqu'un qui ne peut pas les suivre. Ce n'est pas une atmosphère de joie et de paix. Et nous pensons quand Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi en main, il entend des cris, il entend des chants, et quand il est descendu, il voit le veau d'or. Le premier commandement avait déjà été violé. Et alors Moïse casse les tables de la loi. Et nous disons, heureusement qu'il les a jetées par terre, parce que s'il entrait dans l'assemblée d'Israël, dans le camp, là où il y avait l'idolâtrie, qui aurait pu subsister devant Dieu? La loi n'a sauvé personne. Alors lisons une série de passages, 6 passages. Romains 8, le verset 3. Ce qui était impossible à la loi. Dans un autre passage, il nous est dit que la loi était faible. La loi a été comparée à un outil parfait, mais mis dans la main d'un mauvais ouvrier. Voilà, elle devient faible. L'ouvrage n'est pas parfait. Le travail est mauvais, mais pas parce que l'outil est imparfait, mais parce que l'ouvrier, c'est un mauvais ouvrier. Voilà la loi qui a été donnée au peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul ajoute, parce que la chair la rendait faible. Et la loi faible à cause de la faiblesse de la chair de l'homme. Hébreux 7, verset 18. Il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. L'inutilité de la loi, la faiblesse de la loi. en Galates 5, le verset 1, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. La loi est un joug de servitude. En 2 Corinthiens 3, 6, dernière partie du verset, car la lettre tue. La loi est une lettre qui tue. 1 Corinthiens 15, le verset 56. La puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que signifie la puissance du péché? La loi a donné au péché la puissance. Parce que le péché est devenu transgression et la transgression mérite la condamnation. Voilà la loi et la puissance du péché. Et pour terminer, Romains 4, le verset 15, produit la colère. Alors la loi est faible, est inutile, est un joug de servitude, est une lettre qui tue, et la puissance du péché produit la colère. Et pourtant, elle est sainte, juste et bonne. Mais elle était l'ombre des biens à venir. Et comme notre fait nous le dit, la loi a été donnée pour que le péché devienne transgression et pour être notre conducteur jusqu'à Christ. La loi a enseigné à l'homme que l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu parce que l'homme est pécheur. Et alors voilà, après cette épreuve, l'épreuve à laquelle Dieu, par la loi, a soumis le peuple d'Israël, voilà Christ qui vient. Dieu ôte le premier afin d'établir le second. Nous n'avons jamais été sous la loi. Nous, en général, ne sommes pas juifs d'origine. Mais dans l'histoire de la révélation de Dieu, la loi à sa place comme une économie spéciale où toute la faiblesse de l'homme est mise en évidence. Mais Dieu a sauvé les hommes en tout temps, dans toutes les économies, mais les a sauvés par un seul moyen, l'œuvre de Christ, qui dans les économies avant Christ était en vue. Et maintenant, c'est une œuvre déjà accomplie. Mais l'homme a toujours été sauvé par la foi. Mon juste vivra par sa foi. C'est un concept, c'est une idée de Dieu, c'est un principe inébranlable. Toujours, en tout temps, l'homme est sauvé par la foi, même sous la loi. Quand l'homme croit à ce que Dieu dit, et quand l'homme se soumet à la révélation de Dieu, c'est la foi. Et l'homme est sauvé par la foi, parce qu'un jour Christ a porté ses péchés. Pour éclaircir cette idée, quelqu'un dit, illustrer cette idée, quelqu'un disait, c'est comme un chèque en blanc que le Seigneur donne. Moi, je payerai. Sauve-le, je porterai ses péchés. Cet Israélite pieux, qui croit ta parole, qui dans sa mesure est fidèle, qui a la foi, qui t'aime, je payerai pour lui, il est sauvé. Et pour nous, nous sommes sauvés, faibles que nous sommes, tels que nous sommes, le Seigneur a payé, c'est moi qui ai payé. C'est toujours le même moyen, le sang de la croix, qui fait la paix entre l'homme et Dieu. Mais voilà la pleine révélation de la grâce de Dieu. Nous l'avons quand Christ est venu. Déjà la grâce de Dieu était à l'œuvre en Israël. Les sacrifices même, c'était une expression de la grâce de Dieu. Et combien de démonstrations de grâce Dieu t'avait donné. Et on peut relever une autre chose, c'est que même sous la loi, Dieu réclamait l'amour. Parce que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est la loi. Parce que si quelqu'un aime son prochain, ne tue pas, ne vole, ne commet pas adultère, etc. Aimer Dieu, aimer son prochain, voilà la loi. L'amour, la foi, la grâce de Dieu, ce sont des principes toujours valables et qui ne dépendent pas des différentes économies et des différentes révélations que Dieu donne. C'est l'idée de Dieu. La grâce. On a déjà vu ce matin qu'est-ce que c'est que la grâce. Faire grâce à quelqu'un, c'est ne pas condamner quelqu'un qui mériterait la condamnation, mais qu'elle est grande la grâce de Dieu. On a vu ce matin, Dieu nous a donné ce que nous ne méritions pas. C'est la faveur de Dieu vers des pécheurs. Que nous étions loin, Dieu est mort pour nous. Que nous étions des pécheurs, mais le Seigneur est mort pour nous. Que nous étions des ennemis, loin, pécheurs, ennemis, le Seigneur vient, descend du ciel. Nous n'aurions jamais pu arriver au ciel, alors c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et lui est la grâce et la vérité, sont venus par Jésus-Christ. Alors voilà la pleine révélation de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est son essence même, ça fait partie de sa nature, de son être, de sa perfection. Mais la parole nous dit que nous avons connu l'amour de Dieu dans le don qu'il nous a donné de son Fils. Alors contemplons cet amour de Dieu qui descend, qui se personnifie en Christ. Et puis l'Esprit qui nous a été donné verse cet amour dans nos cœurs. Et alors nous pouvons, avec tous les saints, embrasser, et la notre version dit embrasser, l'étendue infinie de cet amour. L'auteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. On remonte à Dieu par la connaissance et par l'appréciation de cet amour qui est venu jusqu'à nous. Alors lisons quelques passages, tous dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, le verset 22, c'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Une alliance meilleure. Le verset 19 est introduction d'une meilleure espérance. Le chapitre suivant, le verset 6. Or maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent. Un ministère plus excellent. Et puis il nous est dit qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur des meilleures promesses. Et encore au chapitre suivant, le verset 23. Il est donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des meilleurs sacrifices. Dieu ôte le premier, imparfait, faible, inutile, l'être qui tue, puissance de péché, qui produit la colère et la mort, et introduit le second. Une alliance meilleure, une meilleure espérance, des meilleures promesses, des sacrifices meilleurs. Et Christ, avec son propre sang, est entré dans un tabernacle plus parfait, c'est-à-dire dans le ciel même. Et nous avons encore, pour terminer, le sang de l'aspersion qui parle mieux du sang d'Abel. Chers frères et sœurs, nous avons été introduits dans des choses extraordinaires. La relation que nous avons avec Dieu, les privilèges que nous avons, ce sont des choses immenses que nous ne pouvons pas comprendre. C'est une relation grandiose. Et il y a eu des saints qui auraient désiré voir les choses que nous avons vues, entendre les paroles que nous avons entendues. Mais cela était réservé pour nous. Quel privilège nous avons. Nous arriverons à la perfection avec eux, mais eux, ils ne sont pas arrivés à la perfection sans nous. Il y avait des choses que Dieu nous avait réservées. Et alors maintenant, la révélation que nous avons, c'est la révélation la plus grande. celle de la grâce, celle de l'amour de Dieu, par Jésus-Christ, avec lequel nous avons la paix. Et c'est un message, celui de l'amour de Dieu, que nous sommes tenus à porter aux hommes. Et rappelons-nous, nous ne sommes pas seulement dépositaires, nous sommes des porteurs des grandes choses de Dieu.
De la révélation progressive, on va revenir encore sur Jean 16. Dans Matthieu, que le Seigneur parlait de choses qui avaient été cachées dès avant la fondation du monde. Il leur parlait en paraboles. Par les paraboles, il révélait certaines pensées. Puis à ses disciples, il expliquait tout en particulier. Et il a enseigné ses disciples tout du long. Mais, dans ce verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc même du temps du Seigneur Jésus, il n'avait pas tout révélé ce que Dieu voulait nous révéler. Il a bien dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, mais il n'a rien développé, si l'on peut dire. Il a dit dans le chapitre 14 de Jean, en ce jour-là, quand le Saint-Esprit sera venu, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Mais il n'a rien développé. Vous en moi, c'est toute notre position en Christ devant Dieu qui est développée dans les Épîtres. Moi en vous, c'est Christ habitant en nous. C'est développé dans les Épîtres par le ministère du Saint-Esprit. Le Seigneur y a fait allusion, mais il n'a pas développé. Il n'était pas encore capable de saisir. Et on doit dire que subjectivement, pour nous-mêmes, c'est la même chose. Il faut que le Saint-Esprit puisse vraiment nous enseigner pour saisir ce que veut dire « vous en moi et moi en vous ». C'est tout le développement des Épîtres. Et quant à la personne du Seigneur, « je suis en mon Père ». Le mot voulu, c'est consubstantiel, mais enfin de même essence, de même nature, une même entité, en quelque sorte. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, Jean développera dans ses épîtres la personne du Fils, l'épître aux Hébreux et l'autre.
Intéressant, je ne sais pas s'il est cité dans notre feuille, c'est l'incident rapporté en Jean 12 avec l'anneau. Nous connaissons la prophétie de Zacharie 9, qui annonçait que le Messie apparaîtrait à son peuple assis sur un anon, le petit d'une ânesse. Et voilà qu'il y a comme une anticipation de la réalisation de cette prophétie lors de l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem. Et au verset 16 du chapitre 12 de Jean, il nous dit, parce que droit avant Jean cite Zacharie, il est dit, « Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais, quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. » Quand Jésus eut été glorifié, nous savons que c'est ce dont l'Esprit a rendu témoignage. En descendant sur la terre, il a rendu témoignage à la glorification de Christ, comme un fait qui venait de s'accomplir dans le ciel, glorifié par le Père. Et c'est donc au moment où ce Saint-Esprit est descendu sur la terre, que les disciples ont possédé le Saint-Esprit, que tout d'un coup la prophétie de Zacharie 9 leur est devenue claire. Ils se souvinrent de ces choses et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. Et cela souligne bien l'importance de cette opération du Saint-Esprit, glorifiant, étant marquant la glorification de Christ et permettant à ceux qui recevaient le Saint-Esprit d'être éclairés sur plusieurs vérités qu'ils avaient peut-être entendues, des faits auxquels ils avaient assisté, mais qu'ils n'avaient pas compris alors, parce qu'il leur fallait l'Esprit et ses lumières pour les comprendre. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, nous l'avons vu hier. Un homme qui n'a pas l'esprit, l'homme animal, ne reçoit pas ces choses qui sont de Dieu. Il ne peut pas les comprendre, c'est comme s'il lui manquait le sens nécessaire pour saisir ces choses. Et ce sens, c'est la présence du Saint-Esprit en nous.
Et de Josué, le verset 3 nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. » Dieu avait donné des frontières que nous connaissons, qui sont immenses, qui n'ont pas foulé, pour finir, mais il a donné ces choses. Mais il fallait qu'on fasse la conquête du pays d'Israël. Il fallait que le Jourdain soit traversé et qu'on fasse la conquête du pays d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour nous là? Nous aussi, Dieu, tel le verset que vient de citer Marc, ils ont compris plus tard, après que le Saint-Esprit soit descendu, ils ont compris ces choses. Est-ce qu'il n'y a pas pour nous aussi cette progression? Dieu nous a donné les grandes vérités, et puis il faut en faire la conquête en quelque sorte, et Dieu se révèle à nous petit à petit. Et nous n'allons jamais jusqu'à l'ampleur des vérités qui nous sont ainsi données par le Seigneur. Il y a une limite que nous ne dépassons pas. On peut toujours encore faire des progrès, étendre l'étendue de la vérité.
Ce qui explique que nous pouvons lire le même passage au cours des années et y puiser chaque fois de nouveaux enseignements, de nouvelles bénédictions. Et on peut le dire à un autre point de vue, j'ai été occupé de telle portion de la parole, et voilà mon frère qui me parle de cette portion et qui m'apporte des choses tout à fait nouvelles. La parole de Dieu est infinie, et nous avons par l'esprit cette capacité, elle reste mesurée, elle n'est pas absolue, mais enfin néanmoins par cet esprit, nous pouvons entrer dans une mesure croissante, dans la révélation des pensées de Dieu.
Dans le livre des Proverbes, il y a ce passage que nous connaissons tous,
à savoir que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissante jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Et c'est bien là un résumé, au fond, de la vie chrétienne. Si le chrétien a devant lui la pleine révélation de Dieu que nous avons entre les mains, aujourd'hui, Dieu se manifeste par cette parole. Et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas d'autre révélation que celle que nous avons. Mais ceci ne veut pas dire que nous parvenons à cette révélation. On a parlé tout à l'heure de révélation progressive. Le croyant qui, à la différence des autres, des croyants du temps actuel, du temps de la grâce, ou du temps de l'Esprit, ou du temps de l'Église, a ce don que les autres croyants d'avant le Seigneur Jésus n'avaient pas. Nous avons l'Esprit. Cet Esprit nous permet de pénétrer peu à peu dans cette révélation et d'en appréhender chaque jour quelque chose, et à condition encore que cet Esprit ne soit pas ni contraint ni éteint. On a parlé tout à l'heure et on a lu au début du chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens, la première, que ces Corinthiens étaient de petits enfants, étaient charnels. Combien de fois ne faisons-nous pas l'expérience que nous aussi, nous vivons selon la chair, bien qu'étant enfants de Dieu. Et dans la mesure où nous vivons selon cette chair, dans la mesure où nous ne la condamnons pas, où nous ne la tenons pas pour morte, l'Esprit est contristé en nous et nous retient dans la progression que nous avons à faire de cette révélation.
Enfin, également, cette révélation progressive, nous tirons cette succession de pensées déjà dans les deux premiers chapitres des Corinthiens et également dans l'épître de Pierre, mais d'une façon différente. Dans la première épître aux Corinthiens, dans les deux premiers chapitres, ce sont simplement des extraits, on n'a pas besoin, chacun le retrouvera. Il y a une pensée et une sagesse de Dieu qui est un mystère éternel, nous est-il dit. Deuxième point, l'homme naturel, aveuglé par son péché,
ne peut ni la connaître, ni la recevoir. Dans notre temps, dans notre économie, l'Évangile est pour lui folie. Troisième point, ce mystère est pourtant révélé par son esprit à celui qu'il aime. Quatrième point, ceux qui en ont reçu la révélation la publient, enseignés qu'ils sont par l'esprit. Cinquième point, l'homme spirituel, régénéré, soumis au Saint-Esprit, reçoit de la parole ce langage inspiré et le transmet. Dans la première épître de Pierre, nous avons ceci. Nous avons déjà Christ préconnu comme agneau dès avant la fondation du monde, on l'a rappelé. Deuxièmement, l'Esprit de Christ, dans les prophètes, les enseignait quant à ses souffrances et quant à ses gloires. Troisième point, cet esprit les conduisait à rechercher quel temps et quelle sorte de temps était ainsi annoncé. C'était le temps de la grâce. Il les rendait conscients que d'autres verraient ce grand salut. Quatrième point, poussés par l'esprit, ils ont parlé et parlé de façon autorisée de ce mystère. Et l'on peut dire que l'essence même de leur message est identique à l'essence même de l'Évangile. Et il est remarquable de voir combien des hommes ont pu vivre dans ces trois économies dont nous avons parlé, ayant la pensée de Dieu. Première économie avant la loi, Enoch, qui marcha avec Dieu. Et Enoch nous est présenté sous ces trois caractères, un homme de Dieu, un prophète, un témoin. Du temps de la loi, Moïse a marché, il a été un homme de Dieu, plus que cela, ami de Dieu. Un prophète, il ne s'est pas levé de tel prophète en Israël, et un témoin. Sous la grâce, nous pourrions en citer plusieurs, mais l'apôtre Paul a vécu aussi bien près du Seigneur, il a été lui aussi un homme de Dieu, un prophète, un témoin. Sous toute économie, l'homme de foi a trouvé un chemin pour vivre près de Dieu, à la gloire de Dieu.
Pour aider à comprendre la différence entre la loi et la grâce, on raconte d'une femme. Peut-être vous connaissez déjà cette anecdote. Une femme qui avait un mari très dur, très exigeant. C'était un homme irrépréhensible, on oserait dire parfait, mais qui avait peu de cœur. Elle ne l'aimait pas beaucoup. Et elle souffrait sous le poids de cette dureté de cœur, de ses exigences. C'est un mari qui faisait son travail irrépréhensiblement, qui à la maison donnait tout ce qu'il fallait, et qui avait fait pour sa femme une liste de tous les devoirs qu'elle aurait dû accomplir, depuis le matin jusqu'au soir. Et cette liste pour elle était un poids insupportable. Elle s'y soumettait, évidemment. Mais un jour, le mari meurt. Elle est délivrée de ce poids, si l'on veut dire. Et après quelque temps, elle se remarie avec un homme qui l'aime. Un homme qui lui ouvre son cœur. Elle s'aime les deux. Elle fait tout ce qu'elle peut pour son mari. Elle se dévoue entièrement. Un jour, en mettant de l'ordre dans sa chambre, dans un tiroir, elle trouve la liste, la vieille liste de son premier mari. Elle la lit, elle se rend compte qu'elle faisait beaucoup plus que cette liste, mais ça ne lui pesait rien. Elle faisait bien plus que son premier mari l'a obligée à faire, mais le faisait tranquillement, c'était une joie. Et alors c'est la loi et la grâce.
Les justes exigences de la loi sont accomplies en vous qui marchez par l'esprit.
De la révélation progressive individuelle, je crois qu'il est important de souligner un aspect particulièrement vis-à-vis de nos jeunes. Aujourd'hui, tout est servi sur un plateau. On vous montre à la télévision comment il faut agir. On vous donne des bandes dessinées, c'est facile à lire, c'est facile à acquérir. Mais il y a un verset dans les Proverbes au chapitre 4, au verset 5, qui dit ceci: « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». Et je voulais souligner, en écoutant ce qu'Alfredo nous disait sur le fait d'arriver à l'homme fait, cette volonté qu'il y a de notre part. Nous avons l'Esprit qui nous aide, nous avons la parole, nous avons la communion avec le Seigneur. Mais il y a aussi cet acte de volonté de progresser dans la connaissance du Seigneur. Et cela est valable pour nous, mais je crois tout spécialement vis-à-vis de nos jeunes, où cet aspect de volonté est de plus en plus bafoué dans la société dans laquelle nous vivons. Et dans tous les versets que l'on peut lire dans ces chapitres de Proverbes, où Salomon s'adresse à son fils, il y a toujours cet aspect de volonté qui est souligné auprès de ce fils. Que sa volonté, son engagement personnel vis-à-vis du Seigneur soit pris.
L'Éternel donne la sagesse et puis acquiert la sagesse.
Oui, frère, il faut bien préciser que nous ne devions pas être seulement des dépositaires de la vérité, mais des porteurs de la vérité. Et à ce sujet, j'aimerais rappeler une illustration qui nous a été donnée il y a déjà longtemps par notre sœur Mademoiselle Juno, qui est donc, nous savons tous, était en Chine, et elle racontait qu'un paysan chinois avait dans son champ une source. Et cette source coulait dans son champ et le rendait verdoyant, et s'écoulait ensuite dans d'autres champs. Puis un jour il se dit, mais cette source elle est à moi. Et il n'y a aucune raison que je ne la garde pas pour moi-même. Et il entourait son champ d'un mur bien étanche. Et au bout de quelque temps, l'eau s'est accumulée dans son champ. Elle a croupi et cela sentait très mauvais. Je crois que c'est une illustration de ce qui peut nous arriver si nous gardons ce trésor pour nous-mêmes.
38 du chapitre 7 de l'évangile de Jean l'illustre, en ce sens qu'il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui.
Comparer la loi à un fil à plomb à l'aide duquel on établit qu'un mur construit s'élève et reste bien vertical. Un fil à plomb qui montre que le mur est peut-être bancal, mais jamais le fil à plomb ne va redresser ce mur. Il ne peut pas, ce n'est pas son rôle. La loi montre la pensée de Dieu, sa volonté, mais elle ne nous donne aucune force. On a fait aussi cette comparaison de phare de voiture qui, engagé dans un chemin tortueux la nuit, mettent en évidence les sinuosités de la route, on les voit, mais ne les redresse pas. Et je pense que nous devons bien comprendre ce qu'est la loi, nous n'y sommes plus soumis. L'apôtre le dit, je crois que c'est dans la première aux Corinthiens au chapitre 9, il dit « je ne suis plus soumis à la loi, quoique je ne sois pas sans loi, mais je suis soumis à Christ ». Il faut lire le passage tel qu'il est, c'est au verset 21. 1 Corinthiens 9, verset 21. Il parle de ceux qu'il désire gagner. Alors il parle à un moment donné de gagner ceux qui sont sans loi, donc pas soumis à la loi. Pour ceux qui sont sans loi, il est comme si j'étais sans loi. Non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ. Être soumis à Christ va bien au-delà des exigences de la loi. Ces exigences ne sont pas codifiées, oui, certes, nous les trouvons dans la parole de Dieu, mais elles sont tellement diverses, elles s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être, et se résument en ceci. Qu'est-ce que Christ aurait fait dans telle situation? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans telle et telle situation? Est-ce que Christ va être vu en moi si j'agis comme ceci? Ou est-ce qu'au contraire, on ne verra rien de Christ en moi et ce sera l'homme naturel qui apparaîtra dans toute sa laideur? Voilà le chemin du croyant. Et notre frère M. Darby disait, je ne dis pas que la loi est perdue de son autorité ou qu'elle ait été annulée. Mais je dis que j'y suis mort. La loi reste, on l'a dit, elle est remontée à Dieu dans toute sa gloire, mais le croyant n'y est plus soumis parce qu'il est mort à la loi. Et l'apôtre Paul dit lui-même que c'est la loi qui l'a tué, je crois que c'est dans les Galates. Et si nous sommes bien certains de ce point-là, que seul Christ a accompli la loi, il le dit lui-même dans Matthieu 5, au verset 17 et 18, et il est bon que nous nous souvenions de la chose pour ne pas faire des confusions entre ce qu'est la grâce et le régime de la loi. Christ a été le seul homme sur la terre qui ait jamais accompli d'une manière si parfaite la loi. Matthieu 5, le verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Et cela a été accompli par lui. Il est très remarquable de voir que l'Esprit avait annoncé d'avance ce fait. Nous trouvons cela en Ésaïe 42, un tout petit verset, et qui annonçait que le Seigneur rendrait la loi grande et honorable. Ésaïe 42, 21. L'Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice, l'homme parfait. Il a rendu la loi grande et honorable. Seul Christ l'a accompli, cette loi. Et maintenant, nous n'y sommes plus soumis parce que nous y sommes morts. La loi en soi n'a rien perdu de son autorité, elle est l'expression de la volonté de Dieu. Mais la démonstration ayant été faite que l'homme est incapable de l'accomplir, elle est mise de côté. Mais nous ne sommes pas sans loi si nous sommes soumis justement à Christ.